Bonsoir à tous. Forte mobilisation partout en France contre la proposition de loi sécurité globale. À Paris, la marche des libertés a rassemblé 46 000 manifestants. Des affrontements avec les forces de l'ordre et des incendies ont eu lieu dans le cortège. Nous rejoindrons Mathilde Dehimy dans un instant, place de la Bastille. Des clients, mais pas la foule. Aujourd'hui, dans les magasins, les commerces dits non essentiels ont rouvert. Pour les commerces qui, eux, restent fermés, le plafond d'indemnisation sera doublé à 200 000 euros par mois. Dans ce journal également, encore un abandon d'un favori. Dans le Vendée Globe, le gallois Alex Thompson renonce en raison d'avarie. Et puis notre rendez-vous avec Christine Siméon pour Ma Vie Connectée et une alliance inédite entre YouTube et le CNC. La météo pour demain, temps plus calme et plus froid. Vigilance orange, pluie inondation jusqu'à demain matin pour les Pyrénées-Orientales et les deux départements corses. Jean-Michel Kolinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Face à une très forte pression, l'exécutif a pu évaluer aujourd'hui à quel point la loi très controversée de sécurité globale peut fédérer contre lui les oppositions dans un contexte rendu très vif après les différentes affaires de violences policières tout au long de la semaine. Des milliers de manifestants partout en France aujourd'hui, militants d'extrême gauche, écologistes, antiracistes, gilets jaunes, étudiants, journalistes ou simples citoyens ont défilé dans plusieurs villes. À Paris, une foule impressionnante s'est rassemblée. Des incidents ont éclaté. Des affrontements ont eu lieu place de la Bastille avec les forces de l'ordre et un incendie s'est déclaré dans une brasserie. En direct de la Bastille, on retrouve notre reporter Mathilde Dehimy. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Frédéric.
Alors des incidents ont éclaté en marge d'une manifestation très suivie.
Oui, des manifestants qui sont restés longtemps bloqués place de la République tant ils étaient nombreux à vouloir rejoindre la Bastille. Syndicats, associations de droits de l'homme, gilets jaunes, mais aussi beaucoup venus en tant que simples citoyens comme Kevin, fonctionnaire, primo manifestant.
J'ai l'impression qu'on est en train de vivre un virage qui est super dangereux dans notre pays en ce moment. Et il m'a semblé important d'être là pour justement montrer mon soutien à tous ces gens qui ont été victimes de violences policières.
Beaucoup, tout âge confondu, disent désormais avoir peur de la police. Le mot revient souvent. Le monde entier nous regarde, a prévenu en début de manifestation Philippe Martinez de la CGT. Message entendu par Karine, ancienne avocate.
C'est la deuxième manif que je fais de ma vie. Je me dis que si moi je suis là, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent être là et ça veut dire qu'il y a un gros gros ras-le-bol. On a un point de départ qui est George Floyd qui se fait tuer aux États-Unis. On l'apprend parce que c'est filmé, le monde entier l'apprend. Et la France réagit en disant, vous savez quoi, qu'on va interdire les caméras. Moi je peux pas, c'est pas ma France. Voilà.
C'est l'ensemble du projet de loi sécurité globale qu'il faut retirer, affirment les manifestants. Le député communiste Éric Coquerel appelle ses collègues marcheurs de l'Assemblée à se réveiller. Par deux fois, le cortège s'arrête, bloqué par les heurts entre CRS et Antifa qui cassent ce qu'ils appellent les symboles du capitalisme. Quand soudain, le journaliste David Dufresne, l'un des organisateurs, craque contre les casseurs, soutenu par son collègue Taha Bouhafs.
Casseurs dehors ! Casseurs dehors ! Hey, respectez les gens, respectez les gens ! Arrêtez ! Vous êtes égoïstes ! Arrêtez de choisir pour tout le monde !
Voilà, nous sommes au pied de la camionnette des organisateurs et les casseurs se retournent brutalement contre eux et puis s'en vont. Le cortège arrive ainsi sous une pluie de lacrymogènes lancée sans distinction sur la foule. Les heurts continuent d'ailleurs à l'instant. Nous avons dû quitter la place de la Bastille car un cortège sauvage vient de démarrer vers la gare de Lyon.
Mathilde Dehimy avec Marc Garvenès. Merci. Et ce soir, la préfecture de police annonce que 9 personnes ont été interpellées dans la manifestation. Une centaine d'élus étaient présents pour demander le départ de le retrait de la loi de sécurité globale. Le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, s'est adressé à Emmanuel Macron en lui demandant d'entendre la rue. Yannick Jadot et la gauche se sont unis autour d'une même exigence, le départ de Didier Lallement, le préfet de police de Paris.
Il y a eu dans ce quinquennat une rupture dans la tradition républicaine du maintien de l'ordre. On a depuis des années, notamment depuis Sarkozy, la précarisation de la police. Et on rajoute à cette précarisation une brutalisation des rapports entre la police et la société qui tend tout le monde et qui parfois arrive à des drames humains absolument insupportables. Il ne faut jamais regarder les exécutants, il faut toujours regarder les donneurs d'ordre. Cette politique en matière de maintien de l'ordre, c'est Emmanuel Macron qui l'a décidé, qui l'a initié. On peut trouver absolument insupportable le préfet Lallement. Moi, je demande sa démission. parce que c'est un exécutant zélé. On peut critiquer, et je critique, Gérald Darmanin. Mais il obéit à Emmanuel Macron. C'est la politique qu'il faut changer.
Yannick Jadot avec Laurence Perron. Sur Twitter, François Hollande demande également le retrait de la proposition de loi sécurité globale quand un texte heurte les consciences et divise la société. Quand il risque de provoquer de la violence, il faut le retirer, écrit l'ancien président de la République. Et puis la garde à vue des quatre policiers interrogés dans l'enquête sur le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler a été prolongée de 24 heures. Les quatre policiers suspendus de leur fonctions sont entendues dans le cadre d'une enquête pour violence et faux en écriture publique. Entre espoir et appréhension, à 4 semaines de Noël, de nombreux commerces ont rouvert aujourd'hui. Espoir de limiter la casse après une année catastrophique et appréhension de voir les clients revenir et parvenir à sauver leur année. Le mois de décembre est stratégique économiquement. Durant cette dernière ligne droite de 4 week-ends avant les fêtes de fin d'année, Jean Castex, le Premier ministre, était ce matin à Reims à la rencontre des commerçants avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a annoncé lors de ce déplacement que les plafond d'indemnisation sera doublé pour les entreprises qui sont toujours fermées. Reportage à Reims, Benjamin Mathieu.
Ça va ? Heureux de rouvrir ?
Ah oui, tout à fait.
Une visite éclair accompagnée par son ministre de l'économie.
On va laisser les clients venir parce que nous, on n'est pas très intéressés.
On espère de tout cœur
que vous l'avez reçu.
Merci d'avoir tenu le coup.
Jean Castex n'est pas venu les mains vides, annonçant par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle aide pour les bars et les restaurants qui resteront fermés.
Nous avons également décidé ce matin avec le Premier ministre que le plafond sur les 20% des chiffres d'affaires que nous avions envisagé de fixer à 100 000 euros serait finalement fixé à 200 000 euros.
Et c'est cette période de fermeture, pas trop difficile ?
Si, quand même.
Je dis quand même bravo parce que vous avez fait des efforts. Et nos indicateurs sanitaires s'améliorent. Ça n'a pas été en vain.
Le Premier ministre vient chaleureusement saluer quelques commerçants du centre-ville, fleuristes, bijoutiers, maroquiniers. Il repère même avec un cadeau, un stylo.
Bon courage.
Merci.
Bien effacé.
Et quelques encouragements.
On est là pour ça.
Mais on va tenir. Être courageux, solidaire, ferme quand il le faut et toujours bienveillant parce que c'est très difficile ce qui nous arrive.
Des commerces non essentiels qui espèrent ainsi sauver les meubles avec cette réouverture à la veille des fêtes de fin d'année et malgré ce protocole sanitaire renforcé particulièrement contraignant.
Et puis, concernant l'épidémie de coronavirus, vous pourrez lire sur notre site franceinter.fr un article expliquant comment le gouvernement envoie un SMS aux Français pour télécharger et faire la pub pour l'appli Tous Anti-Covid, une application qui a passé ce soir le cap des 10 millions d'utilisateurs. À l'étranger, le pape François nomme 13 nouveaux cardinaux aujourd'hui à Rome et continue à modeler une hiérarchie de l'Église proche de ses priorités. Parmi ces 13 nouveaux cardinaux, le plus médiatisé est l'archevêque de Washington, Wilton Gregory, qui va devenir le premier cardinal noir américain de l'histoire. Sébastien Paour.
C'est Jean-Paul II qui l'a fait archevêque en 2004, archevêque d'Atlanta, la ville où Martin Luther King était pasteur. Et à l'époque déjà, Wilton Gregory est le premier noir de l'Église catholique américaine à accéder à un rang aussi élevé. 16 ans plus tard, celui qui est désormais archevêque de la capitale Washington va devenir le premier cardinal afro-américain de l'histoire. Un choix très important, dit le natif de Chicago, le soutien de Rome à toute une communauté. Wilton Gregory devient prêtre à 25 ans et il se fait connaître au début des années 2000 quand éclate les scandales d'abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Il prône la tolérance zéro et participe à l'élaboration d'une charte sur la protection des enfants et des jeunes. En juin dernier, il n'hésite pas à s'en prendre au président Trump qui vient poser Bible à la main devant une église près de la Maison-Blanche. Une fois les manifestations antiracistes dispersées, il dénonce une tentative d'intimidation en instrumentalisant la religion. Le futur cardinal Gregory est catholique, comme le futur président Joe Biden. Il devrait participer au prochain conclave qui choisira le successeur de François et pourquoi pas un pape noir. New York, Sébastien Paour, France Inter.
Le Vendée Globe et l'abandon d'Alex Thompson, l'un des favoris de cette course à la voile en solitaire autour du monde. Le skipper gallois n'a pas pu réparer le safran tribord de son monocoque. C'est la 3e fois en 5 participations au Vendée Globe qu'Alex Thompson doit abandonner, Jérôme Val.
Il a longtemps fait la course en tête avant une première grosse tuile. Il y a une semaine, problème structurel sur son monocoque Hugo Boss. Il a dû réparer en pleine mer pendant 2 jours. Alex Thompson avait perdu beaucoup de terrain, mais il était reparti avec le sourire et la volonté de recoller à la tête de flotte. Cette fois, c'est une avarie insurmontable. Son safran droit a été endommagé à la suite d'un choc irréparable. Impossible dans ces conditions de continuer sa route dans les mers du Sud. Le Gallois se dirige vers le Cap cap en Afrique du Sud qu'il atteindra dans une semaine. « Je suis profondément triste », commente Alex Thompson, qui partait pour son 5e Vendée Globe et qui visait la victoire pour devenir le premier skipper étranger à gagner ce Tour du Monde. C'est le 2e abandon après celui de Nicolas Troussel il y a 12 jours pour dématage. Un autre grand favori, Jérémy Beyou, avait dû rentrer au Sable d'Olonne pour avarie avant de repartir 9 jours après tous les autres.
Jérôme Val, merci. Ma vie connectée, pour terminer ce journal, notre rendez-vous avec Christine Siméon. Un accord inédit a été signé cette semaine entre YouTube, le Centre National du Cinéma et Arte, pour lancer une plateforme Savoir et Culture sur YouTube, ainsi qu'un plan de formation et d'accompagnement des créateurs de vidéos. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir.
YouTube et le CNC mettent 1 million d'euros dans cette opération.
Écoutez cela tout d'abord.
Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment on pourrait améliorer le français pour qu'il soit plus efficace, histoire que l'on communique plus facilement et avec moins d'ambiguïté.
Ça, c'est un extrait d'une émission d'Arte, Le Vortex, diffusée sur YouTube. Elle fonctionne autour de Léo Grasset, animateur de la chaîne YouTube Dirty Biology.
Ah ouais, autant être ambitieux un petit peu.
Il se retrouve ici pour Arte, en compagnie d'un trio de personnages, pour des sessions assez pédagogiques sur les sciences et leur histoire, mêlées à des séquences qui parodient la télé-réalité et toutes les névroses de notre époque.
Bah moi ça va, à part quelques problèmes, je trouve qu'on communique pas trop mal. Hein.
C'est que désormais, pour une chaîne comme Arte, il va s'agir de repérer sur YouTube les talents de demain. Et c'est pour cela qu'elle s'allie à YouTube et au Centre National du Cinéma pour sélectionner ensemble ces nouveaux talents. C'est ce que nous dit Gilles Fraissinier, le directeur du développement numérique chez Arte.
On s'intéresse à la diffusion, mais pas que la diffusion sur YouTube, depuis 2005. Donc forcément, depuis ce temps-là, on commence à connaître un petit peu l'écosystème, au-delà de diffuser, nous, Arte, des contenus, aussi pour en faire un vivier de talents, comme c'est le cas, par exemple, avec la chaîne Le Vortex. Et donc, avec ce savoir-faire-là, on va dire, de essayer de comprendre comment YouTube peut proposer de la création culturelle, de vulgarisation scientifique spécifique. On a une petite expérience au sein d'Arte sur ce type de sélection. Donc la sélection, elle n'est pas figée, elle est évolutive et elle est faite par l'équipe éditoriale au sein d'Arte en lien avec les équipes de YouTube et du CNC, évidemment.
Alors le trio YouTube, Arte, CNC ont donc fait une première sélection de 25 YouTubeurs, Christine.
Bourse, formation ou résidence, voilà le programme proposé pour faire des progrès sur les contenus et leur diffusion. Écoutez Justine Rist, directrice générale de YouTube France.
Les institutions culturelles qui ont été retenues, on va dire, sont celles avec lesquelles on travaillait déjà dans le cadre de Google Art et Culture, qui ont déjà un premier pied sur YouTube. Toutes ont déjà créé un grand nombre de vidéos et veulent aller donc à l'étape suivante d'accélération, de développement pour atteindre voilà une audience encore plus importante.
Des lieux comme le Musée du Louvre, l'Opéra National de Paris ou le Château de Versailles pourront donc bénéficier de ces formations. YouTube proposera par ailleurs la mise en place d'un portail qui rassemble tous ces contenus culturels et scientifiques sous le nom de Savoir et Culture.
Ma vie connectée, Christine Siméon. Le temps pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
L'épisode méditerranéen faiblit sur les Pyrénées orientales mais va rester actif jusqu'en milieu de nuit sur la Corse avec toujours d'importantes pluies d'orages, notamment sur les crêtes et la face orientale de l'île. Par conséquent, maintien pendant encore quelques heures de la vigilance orange sur l'île de Beauté. Demain, c'est un temps calme qui va englober tout le pays avec de fréquents paquets de brouillard ou de grisaille au lever du jour dans des températures qui, en dehors des zones littorales et des régions du sud, seront souvent comprises entre 0 et moins 4 degrés. En journée, le soleil va largement s'imposer, sauf très localement comme en plaine d'Alsace ou dans les vallées du nord-est et du centre-est où le gris ne va pas évoluer, dans les températures l'après-midi de 4 à 6 degrés entre Strasbourg, Dijon et Lyon, 6 à 8 vers Lille, Rouen, Paris et Reims, 9 à 13 sur le centre Val-de-Loire et de la Bretagne aux Charentes et 16 à 18 de l'Aquitaine aux régions méditerranéennes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.